Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à notre nouvel épisode numéro 14 de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle de l'importance de l'expression artistique, avec bien sûr, comme à chaque semaine, un nouvel invité. Et on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi?
Mon nom d'artiste, c'est Ézéchiel. Et puis, en vérité, je suis vraiment juste ça, un artiste. Je suis multidisciplinaire, donc vraiment, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'explorer mes espèces de bulles artistiques qui sont à la fois un peu, à chaque fois un peu folles, pardon. Puis, honnêtement, je sais pas comment dire le reste, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Tu expressionnes un mot qui existe vraiment pas, mais tout ce que tu ressens puis tu vis dans le fond dans différentes sphères artistiques. Donc, juste pour commencer comme ça, tout d'abord, là, tu me dis que tu es multidisciplinaire. Est-ce que tu peux donner un exemple des différentes disciplines que tu utilises pour t'exprimer?
Oui, en fait, ça va aller dans la musique, ça va aller dans le dessin, la peinture, l'écriture, la production. Ma nouvelle bulle qui m'a popé récemment, c'est que je veux créer des parfums. Fait que je me suis fourni en matériel, puis là, ben, je vais bientôt commencer une fois que je vais avoir tout reçu mes choses. Mais c'est vraiment de l'exploration artistique. Et c'est l'exploration sensorielle, vraiment, vraiment beaucoup.
Fait que dans le fond, tu touches un petit peu à tout ce qui t'intéresse, puis tu découvres des nouvelles affaires tout le temps.
C'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que quand les gens me demandent un petit peu qu'est-ce que je fais ou tu sais comment je me définis comme artiste, on dirait que je ne sais pas vraiment quoi dire, je ne sais pas quand mettre d'étiquette là-dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment de processus, puis il n'y a pas de discipline en particulier. Il y a des choses à laquelle je suis plus habitué. Il y a des choses, tu sais, que ça fait des années que je fais, comme la musique, puis le dessin et la peinture, mais il y a toujours des nouvelles choses que je découvre, que j'apprends, des nouvelles disciplines. Mais c'est ça, il y a toujours des nouvelles choses que j'apprends, puis c'est ça, en fait, qui crée, je pense, la particularité de mon travail, je pense. C'est intérêt-là.
Mais c'est quand même intéressant, je trouve ça vraiment le fun parce que tu as nommé plein de choses. Puis encore là, je sais aussi que tu fais de la photographie puis tu ne l'as pas mentionné non plus. Puis ben, ouais. Je veux pas le vanter, mais je vais le faire. Là. Mais j'ai déjà fait un shooting photo avec lui et mon conjoint, puis les photos qui sont sorties et qu'on a eues, excellent. Beau travail, excellent. Fait en plus, non seulement tu es un artiste, mais selon moi, tu as du talent en plus. Donc, c'est quand même une bonne chose.
Ouais.
Quoi qu'on ne sait pas, peut-être que le parfum, ça va être la place que ça ne se marchera pas.
Ben, ça se peut, tu sais.
Mais justement, tu sais, comme surtout qu'on voulait aussi embarquer là, dans le sujet de l'importance de s'exprimer artistiquement dans la vie, selon toi, tu sais, juste pour y aller comme ça, là, tout d'abord pour aborder un petit peu le sujet, qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans le monde artistique? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps que tu as appris ou un besoin qui s'est créé?
Je dirais que je pense que dans mon cas, c'était vraiment inné cet intérêt pour la beauté, l'art, puis l'expression. Je devais avoir 3-4 ans, puis je regardais ma sœur dessiner, puis je disais déjà que je voulais être artiste. Puis j'étais l'enfant le plus décidé au monde, ce qui est très ironique parce que je pense que je suis maintenant l'adulte le moins décidé de la Terre. Mais j'étais absolument sûr et certain, puis je savais qu'est-ce que je voulais. Et c'était faire de l'art.
Tu savais que c'était là que tu t'en allais, dans le fond. C'était
ouais.
C'était comme présent, puis c'était comme... C'était un besoin, dans le fond, de sortir tout ça aussi.
Ouais, c'était en moi, vraiment. Puis, tu sais, Moi, j'ai suivi des formations en violon. J'ai été au conservatoire. Puis, quand j'étais enfant, j'avais 5-6 ans, je suis allé voir un spectacle où il y avait une personne qui jouait du violon. Et je suis revenu chez moi après l'école et j'ai dit à mon père, je veux faire du violon. Puis, il m'a dit, ah ouais, on va regarder ça. Tu sais, évidemment, lui, dans sa tête, c'était comme, eh mon Dieu, on s'embarquera pas là-dedans.
C'était une
Mais
phase, là, c'était
c'est
une
ça, c'est
phase.
ça. C'était juste, tu sais, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais finalement, pendant 6 mois, tous les jours, je lui ai dit, je veux faire du violon, je veux faire du violon, jusqu'à temps qu'il soit écœuré. Puis que c'était moins gossant de me faire faire du violon que de m'entendre lui demander. Fait qu'il a fini par me trouver un professeur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du violon. Fait que c'était vraiment, là, c'était un besoin absolu. Il fallait que je fasse tout ça.
Il fallait que tu découvres là, ce côté-là de la musique. Est-ce que tu joues encore du violon aujourd'hui?
Oui, je joue encore du violon. Malheureusement, pas autant que je le voudrais. Mais, tu sais, dans les productions de musique que je fais, il y a souvent du violon, puis à ce moment-là, ben, j'enregistre. Mais c'est ça.
Je veux juste faire un petit bémol parce que tu me rappelais un souvenir d'enfance un petit peu. Mon grand-père, du côté paternel, il jouait beaucoup du violon, puis il jouait tout le temps du violon. Mais tu sais, c'était pas un joueur de violon professionnel ou quoi que ce soit. Mais le Noël, il sortait son violon, il faisait de la musique, tout ça, puis il était très bon. Mais il a jamais pris de cours. Il jouait à l'oreille. Il a appris à jouer à l'oreille. Puis je suis comme, c'est tellement comme. Je veux dire, moi, je prends un violon dans mes mains, je le mets, ça fait.
C'est un instrument qui est vraiment, vraiment très, très difficile. Ça prend énormément de discipline pour être capable d'y jouer. Parce que c'est pas du tout intuitif, là. Vraiment pas. Donc, ça prend beaucoup de technique. Puis les premières années sont souffrantes, surtout pour les personnes qui écoutent. J'ai beaucoup de compassion pour ma famille qui a dû entendre tout ça.
sais, après l'avoir gossé pendant 6 mois avec je veux un violon, je veux un violon, tu l'as gossé pendant des années avec du
Ah, ouais. Non, ça, c'est sûr, là. Ça a dû être quelque chose. Ouais.
Excuse-moi, j'ai juste une image d'eux autres qui sont comme oh my God, qu'est-ce qu'on a fait?
Non, non, mais attends, tu comprends pas, là. Parce qu'au début, ça devait être souffrant, mais je pratiquais, tu sais, j'étais un enfant, je pratiquais peut-être pas tant de temps que ça, hein, par
OK.
jour. Mais quand j'ai vieilli après ça, par exemple, puis j'étais au conservatoire, puis c'était beaucoup plus sérieux, là, je commençais ça à 6h30 le matin. Tu sais, j'avais des frères et sœurs jusqu'à peut-être 7h30, 8h. Après ça, j'allais à l'école toute la journée. Après ça, je revenais chez moi, puis je continuais à pratiquer pendant 2-3 heures.
Oh my God. Je pense que je t'aurais fini par te faire manger ton violon, genre.
Ben, je
Excuse-le
comprends.
personnellement.
Ben
Écoute,
oui.
je veux pas être méchant, puis tu sais, comme j'ai rien contre les gens qui apprennent à jouer de la musique, tout ça, mais des fois, j'ai un voisin qui s'en va dans le parc en face de chez nous pour jouer de la trompette. Mais il sait pas jouer de la trompette. S'il savait comment jouer de la trompette puis que c'était beau, je serais comme OK. Mais non, il est en train d'apprendre dans le parc. Puis tu sais, on l'entend par la fenêtre, puis je suis comme oh my God. J'ai des envies de meurtre qui me prennent des fois, là. Je suis comme oh!
C'est vrai que, ben, tu sais, ça c'est mon avis personnel, mais la trompette, quand quelqu'un ne sait pas en jouer, c'est un instrument qui rentre dedans, qui rentre dedans un peu.
C'est l'instrument de musique que j'ai essayé d'apprendre à jouer à l'école secondaire quand j'étais dans un cours de musique. J'ai essayé pendant un mois, puis après ça, j'ai supplié de changer d'instrument. Je suis allé avec la flûte traversière, puis après ça, j'ai supplié de plus être dans un cours de musique. Donc, ben, c'est parce que mon professeur de musique a dit, et je pense que je concœure avec lui, j'ai aucune oreille musicale. Je suis incapable de jouer de la musique. Écoute, j'ai essayé du piano, j'ai essayé la flûte traversière, j'ai essayé la trompette. Écoute, j'ai même essayé de jouer du tambour. Puis tu sais, je veux dire, comme, écoute, je n'ai pas le rythme musical en moi.
Non.
Non. beau essayer, là, puis je me force, puis j'essaye, là. Non, c'est vraiment pas là. Puis si j'ai pas une chanson en arrière de moi, puis la chanteuse qui chante en même temps, je chante pas non plus. Tu sais, fait que de ce niveau-là, là, mettons que le côté artistique de ce niveau-là, ben, pour moi, c'est pas ça pantoute. Mais toi, tu l'as bien.
Je pense que oui.
Non, pas je pense. Écoute, moi, je confirme. J'ai entendu quelques chansons que tu as faites, puis c'est vraiment quand même cool. Mais quand tu, justement, là, quand on écrit des chansons, quand on fait plusieurs arts comme ça, et surtout pour quelqu'un comme toi qui est multi-productif, mettons, est-ce que dans chacun des arts que tu fais, c'est quelque chose que de différent que tu vas chercher ou ça reste quand même une expression qui est similaire, mais qui se rapporte à tous les différents arts?
Je pense que chaque forme d'art est une exploration du soi, mais je pense pas que ça explore nécessairement quelque chose de différent. Je pense pas que indépendamment de chaque discipline, il y a quelque chose de différent que tu vas découvrir intérieurement. C'est sûr que tu découvres des expériences sensorielles différentes, tu découvres des nouveaux talents, tu apprends des nouvelles choses, mais je suis pas convaincu, puis en fait je pense pas vraiment que c'est vraiment qu'il y a une nouvelle chose qui ressort de toi nécessairement parce que c'est une discipline différente.
Fait que dans le fond, c'est juste un petit peu comme peu importe ce qu'on fait, dans le fond, c'est ça vient de notre dedans, mais c'est pas nécessairement ah tiens, dans cette heure-là, je mets ma colère, dans cette heure-là, je mets mon plaisir ou des choses comme ça.
Non, je pense que c'est totalement dépendant de ce que moi je ressens puis de mon intérêt à ce moment-là. Donc, si mon intérêt c'est d'écrire une chanson puis que j'ai envie de parler d'un certain sujet, ben ça va être ça. Mais si j'avais envie de parler du même sujet puis que mon intérêt à ce moment-là c'était de faire un dessin, ben probablement que finalement ça va être le même thème qui va être illustré dans cette forme d'art-là.
Donc, c'est plus le moment que l'art en lui-même.
Oui, je pense que c'est vraiment une question de... Pour moi, là, c'est vraiment une question de moment.
Mais moi, j'ai toujours voulu être une personne artistique. Puis, je vais m'expliquer. Tu sais, comme un peu comme la musique, je me suis essayé à plusieurs choses. Le dessin, la musique, tout ça. Puis, j'arrivais pas vraiment à exprimer ce que je voulais. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu es encore au stade bonhomme allumette, de s'exprimer en dessin, c'est pas toujours la bonne chose. Fait qu'un moment donné, je me suis juste mis au coloriage, je me suis dit « ça sera ça pour moi ». Mais tu sais, j'arrivais pas à trouver quelque chose d'artistique dans lequel j'arrivais à m'exprimer, que j'arrivais comme à faire tout ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à écrire des choses, puis je me suis découvert cette passion-là pour l'écriture. Puis il y a comme une espèce de libération qui s'est passée en dedans de moi personnellement. Ça a été comme un « ouh, ah ». Puis là, je me suis mis à écrire, j'écrivais un petit peu n'importe quoi. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des petites nouvelles. Il y a même eu une période de ma vie où j'avais un blog. Essayez pas de le trouver, ça n'existe plus. Puis tout ça, puis ce que ça l'a fait en sortir en moi, ça m'a permis personnellement d'exorciser beaucoup de démons. Mm-hmm. Moi, selon moi, c'est le bénéfice principal que l'art a eu dans ma vie. Et je l'ai sorti de cette façon-là que j'ai réussi à exprimer mes démons puis à sortir autant mes bébites comme négatives que mes bébites positives. Là. Parce que selon moi, c'est pas tous les démons qui sont méchants. Là. Mais ça m'a permis tout ça. Puis il y a comme une espèce de poids qui s'enlève des épaules, un espèce de sentiment de bien-être quand on a réussi à sortir quelque chose. Puis il y a comme aussi l'espèce de petit côté, là, c'est ça vient de moi. C'est mm-hmm. moi qui ai fait ça. Une espèce de, pas nécessairement une fierté égotistique, mais plus une espèce de, pour moi personnellement, c'est comme une espèce un peu de la surprise des fois. Comme une espèce de, ça vient de moi ça? Fait que, tu sais, pour moi, selon moi, c'est un des effets bénéfiques de l'art. Est-ce que toi, tu as des effets bénéfiques comme ça que ça peut, que ça peut apporter ou qu'est-ce qui serait important pour d'aller chercher dans l'art qu'on exprime?
Ben, l'art, c'est la thérapie. Pour moi, ça a toujours été ça. Mais je pense aussi qu'il y a un point que tu amènes qui est pertinent, c'est que il faut quand même être relativement à l'aise dans une forme d'art pour pouvoir s'exprimer à travers cette forme d'art-là. Fait qu'effectivement, tu sais, quand j'étais peut-être, quand je commençais à jouer du violon, ou quand je commençais à dessiner, quand j'étais plus jeune, c'était peut-être pas nécessairement une façon tant que ça d'illustrer mes pensées, mais ça l'est vraiment, vraiment beaucoup devenu, par exemple. Puis je pense que plus j'ai vieilli, puis plus j'ai pris l'expérience, ce besoin-là d'expression est devenu beaucoup plus pressant, puis vraiment, en fait, la conceptualisation est devenue une part majeure, en fait, dans le fait de l'art, parce qu'il y a une limite, dans le fond, à l'intérêt technique, puis l'intérêt de faire quelque chose de beau parce que c'est beau, qui est souvent ce qui commence à nous intéresser en tant qu'artiste. J'ai l'impression que c'est souvent, tu sais, ah, on trouve ça beau, on trouve que ça vient nous toucher, fait qu'on a envie de faire quelque chose de similaire. Sauf qu'après ça, plus on évolue, dans le fond, c'est ça, plus on devient à l'aise avec un médium, plus à ce moment-là, on a la liberté de s'explorer soi-même puis d'exorciser justement des pensées qu'on peut avoir. Fait que c'est clair que, tu sais, particulièrement pour moi, au niveau des chansons, t'sais, chaque chanson est généralement une espèce d'empreinte d'un événement ou d'une réflexion. Puis tout ça, c'est comme encapsulé dans une espèce d'univers consommable. Fait que c'est ça aussi qui est l'intérêt de l'art, c'est que c'est pas juste qu'on peut s'exprimer puis qu'on peut... qu'on peut le matérialiser, mais c'est aussi que c'est consommable. Les gens peuvent, après ça, le voir, après ça, connecter avec ça. Donc, il y a le sentiment de connexion.
Puis de partage.
De partage de l'humain, ouais.
Puis il y a quelque chose de bien, justement, dans ce concept-là que tu amènes de partage, dans le sens où on vit, personnellement, ça c'est mon opinion, mais on vit dans une société qui... niveau partage, a de plus en plus de difficultés à connecter, comme tu dis, a de plus en plus de difficultés à s'exprimer, à se comprendre entre eux, et d'avoir ce côté-là de l'art où une personne est capable de connecter, que ce soit à travers une chanson, que ce soit à travers un livre, un texte, un dessin, un parfum même, comme là tu vas faire du parfum. Mais dans ce moment-là où que tu arrives à connecter peut-être même avec des gens que tu connais pas ou des personnes et tout ça, d'avoir cette espèce de lien-là avec quelqu'un d'autre, il y a une espèce aussi de sentiment d'appartenance qui se fait, puis une espèce de sentiment là où que tu arrives à ne plus être seul dans ton monde tout seul.
Ouais, comme je disais dans l'entrevue qui est sortie récemment que j'avais faite pour... un ami artiste, en tant qu'être humain, tu sais, on a un désir désespéré de vouloir entrer en connexion. On veut tellement être compris, puis on veut tellement avoir un lien, mais en même temps, c'est tellement difficile parce qu'on est tous différents. Mais on a vraiment cette peur-là de la solitude, puis... Il n'y a pas d'autre mot que de dire qu'on veut vraiment qu'on soit compris.
C'est difficile de se faire comprendre. Je pense que c'est Bernard Werber qui disait quelque chose qui se rapporte à là. Puis là, je vais sûrement moffer la citation. Je vous en prie, lancez-moi pas des roches à la maison. Mais tu sais, c'est comme entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, entre ce que je dis, entre ce que tu entends, entre ce que tu veux entendre, entre ce que tu comprends, entre ce que tu veux comprendre, il y a des milliers de façons qu'on a de ne pas se comprendre dans la vie, tu sais, mais essayons quand même.
Puis, tu sais, c'est là que vient toute la pertinence des artistes, puis surtout, là, maintenant, dans une période de notre vie où on est vulnérable, comme l'adolescence, ou quand on se sent moins bien, puis qu'on écoute une chanson qui nous fait du bien, ou on a l'impression vraiment d'avoir ce sentiment de connexion. Il y a quelque chose de presque spirituel à ça. Puis, c'est une chose que je dis souvent, c'est que être ému par un objet d'art, que ce soit un film, une chanson, un dessin, peu importe, le sentiment d'être ému par un objet d'art, c'est un des plus beaux feelings, une des plus belles expériences qu'on peut vivre, je pense, en tant qu'être humain. Vraiment.
Puis quand on parle d'être ému, c'est pas juste nécessairement de ressentir des émotions positives, mais d'avoir des fois de regarder quelque chose puis de ressentir de la colère, de la peur ou d'autres types d'émotions, ça peut aussi être très beau parce que ça reste une connexion avec l'œuvre en face de soi.
Ouais, il y a quelque chose de très de profondément humain là-dedans.
Exactement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on dit qu'on vit dans un monde, tu sais, comme que de la misère à connecter puis tout ça. Puis on considère quand même plus humain quand on arrive à connecter. C'est ça qui est... Mais bref, ça, c'est peut-être juste l'ironie qui se passe dans ma tête en ce moment-là. L'ironie du monde actuel.
Ah oui, non, c'est pas facile. Non, c'est clair que c'est pas facile.
Puis en même temps aussi, pour beaucoup de gens, l'art, c'est un exutoire. Puis souvent, j'entends des personnes ou j'entends des personnes dire que comme l'art a sauvé ma vie, que ce soit n'importe quel type d'art, là.
Ouais.
Ça a sauvé ma vie. Si j'avais pas eu ça, ça m'aurait détruit, tout ça. Puis personnellement, à la période de temps où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup écrit, j'écris beaucoup moins maintenant, en fait, presque plus, mais ça, c'est une autre affaire. Mais à la période de temps où j'écrivais vraiment beaucoup. Si j'avais pas eu l'écriture, à quoi me raccrocher non plus? Je veux dire, je ne serais peut-être pas aussi fort que je le suis aujourd'hui. Fait qu'en même temps, c'est une espèce d'empowerment. Non seulement c'est une connexion, non seulement c'est une expression, mais en même temps, il y a un sentiment de, je ne sais pas comment dire en français, empowerment. Genre de comment on dit ça en français?
Honnêtement, j'ai un blanc. Je suis...
Le monde va comprendre.
Ouais.
Hey, on a ça, empowerment, là. Hein? Sinon, Google Translation.
Ouais, Google Translate.
Mais ouais, il y a ce côté-là aussi d'empowerment qu'on oublie souvent parce que autant ça a de l'effet sur nos émotions, les émotions des gens, la connexion, il faut aussi qu'il y ait ce petit côté-là qui remonte notre égo, en parenthèse.
C'est sûr qu'il y a un sentiment de fierté quand on a la fierté de faire quelque chose pour la première fois. Mais je te dirais que à un certain moment donné, ce sentiment-là finit par s'essouffler un peu. Dans mon cas, la motivation artistique ne vient... Je pense qu'elle l'a déjà été, elle est déjà venue d'avoir envie de cette fierté-là, puis de me dire d'être fier d'avoir créé un certain ou d'avoir complété un certain projet. Mais c'est plus comme ça que j'expérimente la chose.
Ça serait
c'est pas tout à fait le bon mot, mais ben comme je dis, pour moi, la conceptualisation, le concept, le sentiment est devenu plus important. Puis
c'est comme il y a une espèce de côté plus cérébral ou c'est ça que tu veux dire? Ou...
Non, pas du tout. En fait, c'est peut-être même le contraire. En fait, c'est le contraire parce que c'est justement par rapport à ce que tu disais, c'est l'exutoire des émotions. C'est j'essaie d'exorciser ou de matérialiser une pensée, mais sans que ce soit pour l'intérêt de l'objet en tant que tel.
OK, sans nécessairement aller dans la technique de l'art en question que tu
C'est ça.
utilises, sans nécessairement utiliser, tu essaies plus d'essayer de quelque chose de nouveau entre parenthèses ou qui existe déjà, mais qui fit avec ce que tu essaies d'exprimer dans le fond.
C'est ça. Avec le temps, je pense que quand on est vraiment dans l'art, en tout cas, ça, c'est mon expérience, l'envie de l'expression, puis du concept de la chose devient plus intéressante que la technique en elle-même, que la fabrication ou que la fierté, admettons, d'avoir accompli quelque chose. C'est plus mon expérience, j'ai l'impression. Puis moi aussi, j'ai eu des passes d'écriture comme toi. J'ai écrit plusieurs romans quand j'étais adolescent. Puis au début, il y a ce sentiment-là de j'ai envie d'écrire un roman pour avoir écrit un roman. Puis après ça, au fur et à mesure, ça devient différent. On finit par avoir plus d'intérêt envers le message qu'on veut avoir envers l'univers qu'on veut créer, les sentiments qu'on veut impliquer là-dedans.
Ça devient moins par je veux écrire à plus qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer.
Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est ça.
Exactement. OK,
Je
ouais.
pense que, ouais, je pense qu'il y a vraiment cette différence-là à partir d'un moment donné quand tu deviens, c'est ça, expérimenté dans le domaine de l'art, mais
Mais,
c'est peut-être pas tout le monde qui vit ça comme ça.
ben, moi, peut-être un peu moins, mais en même temps, il faut avouer que je suis une personne, puis, tu sais, je le dis pas en mal ou quoi que ce soit, mais je pense que je suis pas une personne aussi artistique que toi dans la vie. Je m'excuse, mais je veux dire, si quelqu'un me demandait c'est qui la personne la plus artistique que tu connais, genre, je répondrais toi. Donc, tu sais, je veux dire, il y a ça aussi. Moi, je suis comme un petit peu plus un artiste de hobby, tu sais, comme, tu sais, j'utilise l'art plus dans mes hobbies, dans mes passions pour m'amuser puis passer le temps. C'est comme plus quelque chose comme ça pour moi de ce niveau-là. Mais je pense, puis corrige-moi si je me trompe, là, parce que là, j'assume, mais pour toi, c'est plus, c'est ton quotidien, c'est ta vie, c'est ce que tu veux faire de ta vie, c'est ce que tu veux être. Ah, donc, j'imagine que tu vas au-delà de justement. Moi, qui est comme une espèce d'artiste de base, si on veut, là, artiste de salon, que je dirais peut-être, là. Mais puis je dis pas ça avec haine ou quoi que ce soit, là. Je veux dire, je suis fier d'être un artiste de salon, là. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Mais toi, c'est ça, t'as quand même une espèce de côté plus out dans le sens où il faut que tu ailles plus loin, justement. Il faut que
Ouais.
tu sais, dans ta vie de tous les jours, tu es dans l'art plus souvent, plus longtemps, plus. Tu sais, c'est différent, je crois.
Oui, puis tu sais, en fait, il y a quand même quelque chose, une mentalité qui est là. Tu sais, pour moi, je le dis souvent, puis je l'ai pas mal toujours dit, que le seul intérêt de mon existence, c'est de faire de l'art. Pour moi, il n'y a absolument aucune raison d'être en vie si c'est pas pour faire ça. Fait que j'ai toujours un projet ou des idées, puis quand ça va vraiment pas, ben c'est quand justement j'ai plus l'énergie d'avoir des projets, puis je sais plus comment exprimer mes idées, mais à ce moment-là, ça va vraiment pas pour moi, tu sais. Donc
C'est comme ça aussi que tu gauges comment tu vas bien ou pas dans ta vie, genre comme si tu n'as pas d'inspiration, qu'il n'y a rien qui vient, tu le sais que tu es dans une mauvaise passe, hein, ou au contraire,
ouais,
tu prends ces mauvaises passes-là
mais
pour le. C'est ça qui est comme.
j'essaie en fait justement d'avoir cette pensée-là le plus possible parce que justement la volonté d'expression vient de l'expérience. Donc, j'essaie de pas prendre mes mauvaises passes comme étant des mauvaises passes, mais plutôt comme une source d'alimentation artistique, comme une.
Une inspiration.
Je me dis que ça fait partie de l'expérience de vivre, puis cette expérience de vivre-là peut être après ça matérialisée en forme artistique.
OK.
Donc, j'ai pas, tu sais, par rapport à, mettons, à se sentir déprimé, puis toutes ces affaires-là, j'ai pas nécessairement toujours envie d'être heureux.
OK.
J'ai pas nécessairement d'être envie toujours d'être une personne heureuse parce que c'est pas ça la vie. Puis le fait de vivre des choses différentes ou des choses difficiles, ben c'est une nourriture pour son expression. Puis ça, la découverte aussi de soi en tant qu'humain. Tu sais, regardless de l'art, tu sais, bon, mettons qu'on jette l'art par la fenêtre, tu sais, j'ai l'impression qu'on est vraiment focusé, mettons, en tant que société, de vouloir absolument
être
heureux. Tu sais, il faut absolument être heureux. Puis on n'accepte pas les autres émotions, tu sais, quand ils viennent. Puis
on veut dans on veut surtout pas que les autres soient au courant non plus.
Non, c'est ça. Puis j'essaie vraiment, dans ma démarche artistique, ça veut pas dire que j'aimerais pas être plus heureux des fois, mais dans ma démarche artistique, j'essaie de m'en servir, en tout cas, pour avoir cette pensée-là, de me dire que, ben justement, l'expérience amène l'inspiration, puis l'expérience, c'est la vie humaine. Donc, c'est pas grave de pas filer, puis c'est pas grave d'avoir envie de...
Des mauvaises journées.
D'avoir des mauvaises journées, c'est ça. Puis même des périodes plus difficiles, c'est des choses qui arrivent. Puis ça a aussi une utilité dans l'existence.
Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a été dans la vie heureux à 100% du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Je veux dire, je pense que tout le monde a eu des malheurs, des mauvaises journées, des journées plus difficiles, à différents niveaux, évidemment. Mais c'est ça qui est le fun de la façon que tu l'exprimes, de prendre cette expérience de vie-là que tu as, autant le négatif que le positif, puis de l'amener ensemble à ce niveau-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, un des stéréotypes qu'on entend souvent à propos des artistes, c'est que c'est tout le temps des gens déprimés, ils ne sont pas capables de travailler, s'ils ne sont pas dans le noir, s'ils ne sont pas comme dans un espèce de monde de douleur. Mais pourtant, il y en a probablement qui sont comme ça. Je veux dire, quand il y a des stéréotypes, c'est parce que il y a quelques personnes qu'on a vues qui étaient comme ça, fait qu'on assume qu'ils sont toutes comme ça, mais on s'entend que c'est pas ça la réalité et n'assumez pas quoi que ce soit sur personne. Mais, je veux dire, la plupart des gens que je connais, que je trouve qui sont artistes, c'est pas tout le temps des gens déprimés 24 heures sur 24, là, je veux dire, je pense pas, là. Mais... À moins que je connaisse vraiment pas leur vie, là, je veux dire.
Mais je pense que, en fait, peut-être la compréhension ou la différence, c'est que les personnes avec peut-être une âme artistique ou un intérêt pour l'art, je pense qu'il y a justement cette, de façon innée et inconsciente, cette acceptation-là de sa part d'ombre. Puis de pas le voir justement comme une faiblesse ou de pas le voir comme quelque chose de qu'il faut se débarrasser. Fait que je pense que il y a peut-être. Donc, oui, c'est peut-être effectivement la source de ce stéréotype-là qu'en vérité, c'est pas qu'on vit dans l'ombre et où on a besoin de malheur ou tu sais, qu'on est tout le temps dépressif, mais c'est justement au contraire l'acceptation de cette expérience de vie-là, puis de s'en servir pour grandir.
Puis ce qui permet d'être plus à l'aise dans ce type d'expérience-là aussi.
Mm-hmm.
Sans nécessairement se complaire, mais d'être plus à l'aise puis de peut-être aussi le montrer un peu plus au monde que ce que le monde est habitué.
Mmh. Ouais, ouais.
Ça fait du sens. Excuse-moi.
On théorise,
évidemment. c'est, je veux dire, ni toi ni moi ne détenons la vérité infuse.
Non, c'est sûr.
Nous ne sommes pas Dieu, malheureusement. Je sais que vous, je sais que vous pensiez que je l'étais. Mais non, je le confirme aujourd'hui, je ne le suis pas. Désolé à tous. Excusez. Mais il y a une chose comme que c'est parce que l'affaire, c'est que là, j'ai comme plein de stéréotypes, parce qu'on parlait de stéréotypes sur l'art, puis là, j'ai comme plein de stéréotypes ou de choses que j'entends dire à propos de l'art dans la vie. Puis là, j'ai juste ça qui me pop dans la tête. Mais, tu sais, il y a des gens aussi là, que tu vas les entendre, tu vas dire, ah, ça, c'est pas de l'art, c'est pas de la vraie art, ça. Ah, c'est pas de l'art, ah, non, c'est pas de l'art. C'est moi, moi, c'est comme ça qu'ils parlent. C'est la face que je m'imagine qu'ils font. Mais selon toi, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être considéré comme de l'art? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, non, c'est pas de l'art, ça, c'est de l'art. Est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie ce qui peut être de l'art ou ne pas être de l'art?
Je pense que c'est tellement personnel qu'il n'y a pas vraiment de définition à l'art. C'est vraiment par rapport à ce que tu perçois de quelque chose. Je t'avoue que j'ai un peu de difficulté à suivre l'art avec un grand A, tel qu'on le voit dans des musées ou dans les hautes galeries où on a des bols de toilettes qui sont présentés comme de l'art. Mais en même temps, il y a un processus, il y a une pensée derrière ça. On nous dit, ben l'artiste, lui, a pris cette toilette-là d'une personne qui l'a construite. Puis cette personne-là qui l'a construite, ben pourquoi est-ce qu'on dirait pas que c'est de l'art après tout?
Ouais.
Donc, il y a toujours cette pensée-là, sauf qu'à un moment donné, je pense que ça devient peut-être un peu un cycle où on perd la connexion justement avec l'humain, peut-être un peu dont on parle. Donc, moi, tu sais, peut-être que j'ai des goûts candides, mais il y a des artistes que j'aime où c'est littéralement juste des petits dessins puis des illustrations, mais il y a des symboliques là-dedans qui viennent me toucher profondément, puis que dans le fond, ça devient mes artistes préférés à cause de ça. Donc, honnêtement, c'est tellement personnel comme question que...
Mais moi, je suis peut-être un petit peu plus biaisé, là, puis je vais te donner un tu sais, je vais te dire comme exactement pourquoi. Tu m'entends-tu encore?
Mm-hmm.
Okay. Je suis un petit peu biaisé, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que il y a des affaires que je vois, puis que, tu sais, comme... J'ai de la misère à dire comme c'est de l'art, là. Comme je ne sais pas si tu en avais entendu parler, mais à un moment donné, il y avait un artiste, je ne connais pas son nom, écoute, puis il avait attaché un chien dans le truc de son musée et il laissait le chien s'affamer. Et c'était son œuvre d'art. Puis les gens allaient voir, puis ils marchaient, puis ils n'avaient pas le droit de nourrir le chien. Puis, tu sais, le chien devenait de plus en plus maigre, de plus en plus osseux, puis tout ça. Pour moi, ça, je m'excuse, c'est pas de l'art. Puis tout le monde disait comme, oh wow, c'est de l'art, c'est ci, tout ça. Puis c'est là que moi, j'ai eu de la misère, parce que je suis comme, non, pour moi, c'est pas de l'art, c'est de la torture animale.
Mais là, ici, on sort de la question de est-ce que c'est de l'art ou pas, puis on est plus proche, en fait, de la chose au niveau moral. C'est une question d'éthique plus qu'une question de définition.
Oui, il y a une question d'éthique là-dedans, mais en même temps, c'est si quelque chose n'est vraiment pas éthique, est-ce qu'on devrait le considérer comme de l'art? Il y a ça aussi.
Ben, en même temps, je veux dire, il y a des films de torture où on voit des gens se faire découper en morceaux, et on peut pas dire que c'est éthique comme chose.
Oui,
c'est pas éthique, mais ça reste un objet artistique quand même.
Oui, mais on s'entend que ce n'est pas des vraies personnes qui se font tuer. Et il y a un autre art en arrière de ça qui est l'art du maquillage, l'art de
non, mais
ça.
Ben, il y a autre chose. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est inacceptable pour moi. La souffrance animale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis écoute, je connais pas la situation particulière dont tu me parles, mais avec ce que tu me donnes comme élément, c'est clair que je suis comme... Ben, j'ai envie de frapper quelqu'un.
Non, mais moi, c'est quelque chose qui m'avait dérangé, puis, tu sais, ça avait dérangé d'autres gens aussi, pas juste moi, évidemment, mais ce qui m'avait dérangé, c'est tous ceux qui défendaient ça comme étant de l'art. C'est là que j'avais eu une espèce de petit... Puis, tu sais, ça te donne un espèce de questionnement de où c'est rendu, où l'art, c'est ça, c'est de l'art, tu sais?
Ouais, mais c'est pour ça que je dis que j'ai un peu de misère à connecter ou à me sentir en... Je sais pas, en vibration avec le courant de l'art avec un grand A, parce qu'il y a vraiment, on dirait, en tout cas,
ben, il y a quelque chose de très commercial à l'art avec un grand A, là, comme tu dis. Puis, on dirait que ça suit aussi les courants de la société. T'sais, on est dans une société en ce moment qui aime beaucoup être choquée, qui aime beaucoup, genre, comme faire « Ah! » ou se outrer de quelque chose, ou tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Et souvent, ce qu'on va voir ces temps-ci, là, les gens qui décident que quelque chose, c'est de l'art qui mérite d'être vendu. Tu sais, le gros scam, justement, là, de ça qui est... Excuse-moi, ça, j'ai mon opinion par rapport à ça. Mais les gens qui décident que l'art mérite d'être vendu puis vaut cher, ont tendance à aller beaucoup vers ça parce que c'est justement quelque chose qui intéresse et qui peut laisser comprendre à pourquoi c'est de l'art. Tu sais. Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. Genre, j'ai l'impression d'avoir été dans toutes les directions avec 20 000 opinions en même temps, dans la même phrase.
Mais je sais pas comment vraiment formuler une opinion par rapport à ça, honnêtement. Là.
OK. Ben, dans le sens, c'est ce que, dans le sens que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, il y a une espèce de côté où, si on parle de l'art qui se vend là, à des milliers et millions de dollars, là, c'est j'ai de la misère avec ça dans le sens où qui a décidé que cet art-là était meilleur que
mais c'est comme autres? c'est comme l'industrie du fashion. C'est vraiment la même chose. C'est un groupe d'élite qui décide ben ça le fait, ça le fait pas. Ouais. C'est un commerce. Puis...
Mais avec le fashion, il y a aussi quand même le côté de, tu sais, le tissu qui est utilisé, est-ce que le tissu est dur à utiliser ou pas, la forme que ça a, c'est comme le temps qui a été mis dedans, il y a quand même une espèce de côté qui peut faire comment. C'est sûr que, je veux dire, si la robe t'a coûté 5$ à faire puis que t'as vendu 23 millions, hein? Tu sais, mais ça, c'est peut-être mon côté cheap aussi là, qui embarque là-dedans, là.
Ben, on est aussi à différentes sphères de société, tu sais. Ben, on pourrait embarquer sur les classes, puis l'économie, puis toutes ces choses-là, mais c'est parce que je sais pas quoi te dire, honnêtement, parce que je suis pas dans ce monde-là, et je suis pas en accord non plus avec ce dogme de penser, parce que c'est presque un dogme, en fait, rendu oui. là, cette façon de penser, puis pour moi, ça dénature l'art en tant que tel, mais c'est, encore une fois, c'est l'art, c'est une question philosophique, c'est comme être ou ne pas être, il n'y a pas de définition en tant que tel, il y a ce que moi je reçois, puis ce que moi je pense, puis il y a ce que l'autre personne pense, puis l'autre que personne reçoit. T'sais, j'ai déjà eu des professeurs d'art plastique que quand j'émettais certaines opinions par rapport à ce genre de sujet-là, qui devenaient vraiment sur la défensive, puis qu'ils voulaient plus me parler à cause de ça, puis j'étais comme, ben, à un moment donné, c'est parce que c'est ça.
Je m'excuse d'être un être humain différent de toi.
Exactement.
Mais excuse-moi, là, c'est juste parce que là, j'embarquais dans une chire, comme ma mère dirait. Mais on va revenir au mouton pas conventionnel, mais au meilleur mouton. Mais il y a aussi dans l'expression de l'art de soi-même ou tout ça, t'expliquais tantôt, puis je voulais juste revenir un petit peu là-dessus, que plus que t'embarques dans l'art, plus que tu connais un type d'art, plus ça devient facile d'exprimer autre chose, c'est-à-dire comme avec le dessin, avec la chanson, ou tout ça. Et est-ce qu'il y a une forme d'art qui te donne un meilleur confort pour toi-même? Est-ce que tu en as un qui est comme préféré aux autres? Sans dire que c'est meilleur, mais mm-hmm. que toi, tu préfères en tant que tel.
En fait, c'est vraiment... ça va peut-être revenir à la même chose que je disais tantôt, mais c'est vraiment par rapport à mes propres caprices. Là.
OK.
J'ai des phases, tu sais, de chansons, de musique. J'ai des phases d'écriture. J'ai des phases d'une nouvelle passion, de vêtements, de dessin et de peinture. Fait que c'est comme, je peux pas vraiment répondre à cette question-là parce que c'est vraiment dépendant du moment, tu sais, du moment dans lequel je suis, tu sais.
Mais ça, c'était vraiment juste ma curiosité personnelle, là. C'était vraiment juste comme, c'est quoi ton art préféré?
Mais, tu sais, ça change tout le temps, en fait.
OK. Mais on a beaucoup parlé, tu sais, des côtés positifs de l'expression artistique, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des côtés négatifs qui sont plus négatifs ou qui pourraient être moins bien ressortir dans la vie de quelqu'un en général? Est-ce qu'il y a des points négatifs, dans le fond?
Évidemment, je peux seulement parler de mon expérience personnelle par rapport à ça. Mais moi, je sais que l'art a quand même ses limites en termes de thérapie, tu sais. Puis il y a des choses qui ne peuvent pas être reconstruites ou il y a des choses qui ne peuvent pas se guérir juste par le fait de l'exprimer, je pense. C'est toujours c'est toujours un excellent départ puis un excellent progrès justement de s'exprimer dans ces médiums. Mais quand tu as des problèmes qui sont plus sérieux que ça, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de s'enfermer dans l'art.
De se rendre prisonnier de son propre art, dans le fond.
C'est ça, puis de pas chercher à vouloir régler des problèmes qui peut-être demanderaient une aide externe, une aide extérieure.
Donc, si je comprends bien, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de danger que... Même si c'est un excellent exutoire puis que ça peut être une bonne thérapie, comme tu dis, il y a le danger, justement, que... Tu sais, c'est un peu comme trop de bonnes choses, c'est comme pas assez. Là, il y a une expression qui dit, là, trop de miel pour l'ours et il vomira, tu sais. Mais il y a peut-être ce côté-là aussi, dans le sens où si tu penses que c'est ce qui va te guérir puis que tu t'enfermes dans cette idée-là, il y a peut-être quelque chose qui peut mal tourner aussi. Parce que moi, je suis un grand avocat de personnellement, des thérapies aussi, là, des thérapies art, art, H-O-R-S, art, A-R-T. je l'épelle parce que dans ma tête, ça a fait un bug.
Ouais.
Dans ma tête, moi, je dis que c'est quelque chose que je dis souvent, mais comme tout le monde devrait avoir un psy. Là. Dans ma tête, à moi, tout le monde devrait avoir un psy.
Je suis d'accord.
Fait que je veux dire, oui, l'art peut être un bon exutoire, puis oui, ça peut te calmer, ça peut avoir plein d'effets différents. Mais ça reste important que si tu veux travailler tes bébites, il faut que tu les travailles autrement aussi.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, personnellement, je suis une personne qui a de la difficulté à exprimer mes sentiments puis exprimer certaines opinions ou certaines choses parce que toute une variété de raisons, tu sais, mon historique, ma personnalité, fait que toutes ces choses-là. Puis l'art me permet de mettre mes émotions quelque part, sauf qu'en même temps, il y a des choses qui demandent amélioration au-dessus de juste exister sous une autre forme. Ou juste, comme je dis, l'expression, c'est l'expression de quelque chose, l'expression d'un sentiment, ça peut être un départ, mais des fois, ça demande plus. Puis effectivement, je dis ça parce que, en fait, je suis d'accord avec qu'est-ce que tu dis. Puis c'est dans la présence d'un problème qui est plus profond, ben oui, effectivement, c'est clair que l'art est peut-être pas totalement suffisant. Pour guérir, en tout cas, complètement certains problèmes. Là.
Mais ça reste quand même un bon élément à voir. Là. On n'est pas en train de dire que c'est
non.
Pas
bon, non.
Au contraire, jusqu'à maintenant, on a été très positif sur le sujet, je pense. Est-ce que, par rapport justement au côté négatif, par rapport au niveau de l'art, on a amené un petit peu le côté éthique, entre parenthèses, tantôt. Mais il y a une espèce de nouvelle génération là, qui est comme toute vérité n'est pas bonne à dire. Puis il y a une espèce de mélange. Puis dans ce que je vois aujourd'hui, on dirait qu'il y a une espèce de mélange entre il faut qu'on ait la liberté d'expression. Mais tu n'as pas le droit de tout dire. Ce qui peut quand même être un peu mélangeant dans certaines situations. Est-ce que c'est quelque chose qui, au niveau de l'art, peut compliquer, selon toi, le processus?
Définitivement. C'est quelque chose qui peut clairement compliquer le processus. On a juste à voir l'expérience de plusieurs personnes sur Internet, n'importe qui a un peu de notoriété. Je fais juste penser à une YouTubeuse que j'aime énormément, qui a une chaîne qui s'appelle ContraPoints en anglais. Et puis, à chaque vidéo, et ces vidéos sont comme des essais philosophiques sur des courants présents, des courants de la société d'aujourd'hui, comme la masculinité, les réseaux sociaux, la solitude, le nazisme, les classes sociales. Puis, dans presque toutes ces vidéos qu'elle sort, qui sont des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre intellectuels et visuels pour du contenu YouTube. À chaque fois qu'elle sort quelque chose, on dirait qu'elle se fait cancel sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quelque chose qui ne fit pas avec tout le monde. Donc, il y a clairement, je pense, un espèce de problème avec la façon dont on réagit par rapport aux problématiques, mais en même temps, il y a le côté, il y a l'autre côté du fait que, comme génération, puis aussi comme classe sociale qui ne fait pas partie de la haute classe, on est incompris, puis on se fait rire dessus, puis on se fait piétiner depuis des décennies. Puis il n'y a rien qui se fait, il n'y a aucune justice, il n'y a aucune responsabilité qui est prise de la part de personne. Alors quand les gens qui n'ont pas la capacité nécessairement de faire la part des choses essaient de responsabiliser les gens qui font des erreurs, ben malheureusement, ça, des fois, ça tourne au vinaigre. Sauf qu'il y a vraiment y a cette balance morale-là qui m'empêche un peu de prendre une position. C'est sûr que c'est difficile d'avoir comme un espoir par rapport à cette culture-là de silence. Mm-hmm. Sauf qu'en même temps, elle est justifiée d'une certaine façon. Elle est justifiée parce que ça fait trop longtemps qu'il n'y a personne qui écoute. Donc ça, pour moi, ce que je le vois, c'est un symptôme. C'est un cri du cœur d'un grand pan de la société qui en a ras-le-bol et qui est incompris et qui essaye de prendre la justice entre ses mains, qui essaye de se responsabiliser puis de dire « Non, ça ne se passe plus. » Évidemment,
c'est fini.
Évidemment, il y a des débordements puis il y a toute... Il y a toute une réflexion aussi par rapport à voir, mettons, si on parle vraiment du cancel culture puis de Twitter, les comptes qui amènent ce genre de comportement-là, on ne sait pas non plus c'est qui ces gens-là. Est-ce que ce sont des trolls? Est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont indignés ou est-ce que c'est des personnes avec une identité politique qui essayent d'avoir... Fait qu'il y a toute cette réflexion-là qui est compliquée aussi, puis qu'en fait, on n'est pas vraiment sûr de l'échantillon de qu'est-ce qu'on vit présentement, de la pertinence de cet échantillon-là. Donc, comme je dis, c'est que c'est tellement complexe comme un sujet que je ne peux pas vraiment le réduire à est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien dans le domaine de l'expression artistique, parce que c'est plus large que ça.
Parce qu'il y a des couches.
Il y a des tonnes de couches. On y vient à un problème de société, un problème d'économie, d'éducation, de justice en tant que tel. C'est un problème de justice. C'est pas selon moi, c'est même plus un problème lié à l'art. L'art, les conséquences qu'on subit de ça, mais c'est juste ça, c'est des conséquences. C'est des symptômes d'une maladie qui est beaucoup plus grave.
Bien, c'est ça aussi qui a amené à une espèce de questionnement. Est-ce que l'art devrait être pris en compte par rapport à ce qui est l'artiste aussi? Ou est-ce que l'art devrait être pris à part de qui est l'artiste? Il y a ça aussi qui est un gros questionnement en ce moment. Par exemple, je donne l'exemple de J.K. Rowling.
Ouais.
Est-ce que le fait qu'elle soit transphobe, est-ce qu'on doit détruire l'art qu'elle a créé par le passé à cause de ça? Ou je pense juste à Shane Dawson qui a fait des vidéos très racistes. Puis son personnage de Shanaynay, c'était un personnage raciste, on se l'entend. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que ça fait des années qu'il ne fait plus ça, est-ce que, oui, il doit être tenu responsable, mais est-ce qu'il mérite d'être cancellé? Est-ce qu'on doit lui enlever le droit de faire de l'art aujourd'hui? C'est là où il y a toute une espèce de questionnement, puis moi, personnellement, je n'ai pas de réponse par rapport à ça, puis je ne pense pas qu'il y en a une encore, mais c'est, on est dans un monde tellement compliqué, justement, comme tu le disais, où il y a cette espèce de côté-là de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, et où est-ce qu'on met l'art dans tout ça aussi? Dans le sens où, je veux dire, comme, puis tu sais, moi, je vois aussi l'humour comme une forme d'art. Donc, tu sais, jusqu'où on peut aller en humour. Je vois aussi, il y a plusieurs choses comme whatever, là, mais c'est quand même un questionnement. Puis, c'est pour l'artiste en lui-même, ça doit être aussi un gros questionnement de si ça remet en question l'art que, tu sais, admettons que tu essaies d'exprimer quelque chose, que tu essaies d'exprimer quelque chose en toi, puis là, ça sort. Puis ton intention n'était pas d'être dérangeant ou quoi que ce soit, ou d'avoir un discours qui peut être déplacé, mais que ça peut ressortir dans ce que tu as créé. À quel point, jusqu'à quel niveau est-ce qu'il faut mettre une forme de censure? Il y a comme plein de questions comme ça qui se sont générées dans le monde qu'on vit en ce moment, puis dans la nouvelle génération de gens, puis la nouvelle génération artistique aussi?
Comme je dis, c'est j'ai de la misère à prendre un parti sur cette question-là parce que c'est tellement complexe. Puis il y a des justifications de tous les côtés, puis des vérités aussi de tous les côtés. L'affaire, c'est que je pense qu'on perd, surtout en fait, je pense que ta question est pertinente, surtout pour la sphère publique. Je suis pas une personne, en tout cas pas encore, je sais pas si je vais l'être un jour, je suis pas vraiment une personne, je suis pas vraiment une personne qui est dans la sphère publique, tu sais, j'ai pas des dizaines de milliers de personnes qui ont les yeux rivés sur moi à tout moment. Fait que c'est pas quelque chose avec lequel j'ai à dealer. Mais pour les gens qui doivent le faire, c'est clair qu'il y a un questionnement qui doit être pris très au sérieux dans le contenu qu'ils peuvent créer, en fait, sans vouloir de grosses répercussions qui viennent de ce phénomène-là. Mais en même temps, je peux pas dire que c'est mal de responsabiliser les erreurs des gens, parce qu'il y a tellement eu d'injustice dans le passé.
C'est ça qui est compliqué, dans le sens où chacun des deux côtés ont des bons pour puis ont des bons contre. Fait, comme, où est-ce qu'on trouve le juste milieu là-dedans? C'est comme super compliqué. Ouais.
Je pense que la réponse, en fait, se trouve vraiment dans le... Il faut se rappeler qu'on est des humains. C'est là que se trouve la réponse, selon moi. Que tout le... J'écoutais une vidéo en fin de semaine, puis la personne, elle disait une citation, puis la citation, c'était un personnage qui disait « Pour moi, c'est une genre de machine intelligente. » Puis elle dit « Pour moi, je vis tous les moments en même temps. Donc, t'as beau partir maintenant, mais je vais quand même avoir tous les moments que j'ai passés avec toi comme s'ils étaient le présent. » Sais-tu d'où est-ce que ça vient?
The Good Place.
Oui! C'était tellement bon! J'ai pleuré.
Écoute, mais bon. quand la saison s'est terminée, là, j'étais comme « Non, j'en veux plus! » Excuse-moi.
Mais, bref... En se servant de ces citations-là, la personne qui faisait la vidéo apportait le point que c'est comme ça présentement qu'on vit la réalité sur Internet. Une personne qui a évolué, admettons, sur YouTube, encore une fois, dans ce contexte-là, qui a évolué sur un contexte de 10 ans, ben, chaque vidéo représente le présent. T'sais, une personne va voir une vidéo d'il y a 10 ans et dans sa tête, ça va être la représentation de cette personne-là au présent.
OK.
Fait qu'il y a cette continuité-là et dans le fond, si on n'est plus capable de voir la continuité de l'évolution d'une personne, ben, ça veut nécessairement mener à la mort de l'authenticité. Parce qu'on peut plus, on n'a plus de place à l'évolution, on n'a plus de place au changement. C'est ça, au changement. C'est vraiment une question d'évolution puis de changement dans le temps. Et puis là, on n'est plus capable de faire la différence à cause du format qui est évidemment différent par rapport à ce qu'on est censé comprendre. T'sais. Fait qu'il y a des choses qui étaient en contexte social il y a 10-15 ans qui sont tellement différentes aujourd'hui. Je le dis tout le temps, mais le monde a tellement changé dans les 10 dernières années. Moi, il y a 10 ans, j'étais encore au secondaire, puis c'était un monde qui était complètement différent. Il fallait pas parler d'identité, on parlait pas d'identité de genre, ça existait pas, là, les identités de genre. J'avais un ami qui était trans, puis c'était paria, c'était, tu sais, les gens, ça gênait vraiment beaucoup, puis... Aujourd'hui, tu sais, les jeunes en parlent, puis j'en parle aussi, puis c'est comme on a un tout nouveau vocabulaire, et même la vision au niveau de, tu sais, de l'homosexualité, de la diversité sexuelle, maintenant, aujourd'hui, dans les écoles secondaires, tu sais, ça en parle, puis c'est quasiment, tu sais, c'est pas un problème pour personne, mais quand j'étais au secondaire, puis qu'il y avait des personnes, tu sais, il y avait des affiches, admettons, les affiches se faisaient arracher, puis il y avait de l'intimidation full pin. C'est clair qu'il y en existe encore aujourd'hui, mais juste de ce côté-là, le monde a tellement changé, puis mais hein? Vraiment, il y a eu une révolution sociale, tu sais, qui s'est faite vraiment, vraiment rapidement, puis il y a toute une génération. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une génération qui n'a pas vécu cette révolution de conscience-là, cette révolution sociale. Parce que nous, en tant que personnes plus jeunes, on a grandi sur Internet, exposé à des centaines de millions de personnes, de faits chaque jour, de nouvelles opinions, des nouvelles choses qu'on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on en vient à avoir... je dis pas une conscience supérieure parce que c'est pas supérieur, c'est juste que il y a eu une évolution qui s'est faite plus rapidement.
Il y a un autre niveau.
Un niveau social. Mm-hmm. C'est pas que c'est plus intelligent, c'est juste que socialement, il y a eu une accélération. C'est plus comme ça que je le dirais. Il y a eu une accélération sociale, puis t'as une génération qui fait juste commencer à taponner sur les réseaux sociaux un peu, qui comprend pas qu'est-ce qui se passe, puis qui l'a pas vécu. Donc, on en vient aux classes générationnelles, qui est un sujet totalement différent, mais...
Mais je trouve ça vraiment intéressant que ça, parce que, je veux dire, je suis quand même un petit peu plus âgé que toi, comme, je pense, d'une dizaine d'années, si je me rappelle bien. En tout cas, bref, c'est pas important. Je suis pas vieux, mais en tout cas, bref.
Non, j'ai juste un chiffre.
C'est exactement. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vécu à une époque où, tu sais, encore là, quand j'étais plus jeune et adolescent, j'ai vécu dans un monde qui, avec l'homosexualité, mais exemple, comme tu parles, tu sais, c'était vraiment pas accepté. Et ça ramène un petit peu à ce que tu disais où, tu sais, on vit dans le présent, puis le passé peut être dans le présent aussi, parce que souvent, moi, en tant que personne qui vient de cette génération-là, je vis encore ces années-là dans ma tête parce que je vais avoir les mêmes peurs que j'avais avant, même si le monde a changé, même si le monde a évolué. Je trouve ça super intéressant que tu amènes ce niveau-là, puis de le rapporter à l'art aussi, de le rapporter à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je trouve que, en fait, ben là, le vidéo tire à sa fin, malheureusement, mais je trouve que, en fait, c'est une très bonne façon de finir le vidéo parce que ça ramène sur une espèce de côté. Le côté philosophique de la chose, le niveau philosophique aussi de l'expression de l'art dans le soi-même du présent, du passé. En tout cas, dans ma tête, ça fait du sens. Peut-être que quand je le dis, ça n'en fait pas, mais dans ma tête, il est là. T'sais? Mais tu sais, des fois, ça arrive souvent. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui fait super du sens dans ta tête. Puis là, tu le dis, puis on dirait que tu perds tout le sens que ça a. Ça m'arrive souvent. Mais je fais avec. Moi, j'ai l'art de parler pour ne rien dire. Mais bref. Malheureusement, notre temps est terminé. Écoute, l'heure vient de se terminer. Donc, comme tu sais, j'aime bien terminer mes vidéos avec les conseils slash recommandations du jour. Donc, est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation du jour à nous donner aujourd'hui, Ézéchiel? J'aime ça dire Ézéchiel, je m'excuse.
Je pense que pour en revenir à ce que je disais plus tôt, puis c'était pas ce que j'avais prévu dire, sauf que en réfléchissant à notre conversation, je pense que c'est un point qui ressort vraiment, c'est d'accepter les mauvaises expériences, puis d'accepter la douleur, accepter la tristesse comme étant faisant partie de la vie.
Que d'accepter les émotions négatives peut être aussi important dans le fond que d'accepter les émotions positives.
Oui, exactement. Ça fait partie de la vie, puis ça nous permet de nous découvrir, puis c'est l'expérience humaine.
C'est un excellent conseil. C'est quelque chose que même, je vais être honnête, c'est quelque chose que ma psychologue m'a déjà dit, donc je pense que c'est un bon conseil. Bref, moi, ça va être plus une recommandation. J'ai écouté un film pas très, très connu, là. Je dirais pas un film de série B, mais c'est pas un film qui est passé au cinéma ou qui est passé à quoi que ce soit. C'est un peu un film d'horreur, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant dedans, même au niveau de l'art, entre parenthèses. C'est, dans le fond, 8 personnes qui sont invitées dans une funhouse. Le titre du film, c'est Funhouse, by the way. Qui sont invitées dans une funhouse, mais c'est toutes des gens qui ont été populaires grâce à Internet. Genre, tu sais, comme la fille qui parle, qui fait des blogs sur les drames. T'as la fille qui est sexy puis qui fait des maquillages. T'as le gars qui présente les vidéos drôles puis qui les commente. Mm. Puis t'as, en tout cas, bref, t'as tous des gens qui sont devenus populaires comme ça, qui se ramassent dans un show de télé-réalité qui est montré au monde entier. Et finalement, c'est un film d'horreur. Fait qu'il y a des morts puis ils finissent par tous mourir, un par un, évidemment. Mais c'est tourné en jeu comme en télé-réalité où les gens votent justement pour qui va être ça. Puis je veux pas en dire beaucoup parce qu'il y a quelque chose de ça. Puis c'est que le méchant, entre parenthèses, a souvent des conversations justement avec, pour le ramener au sujet, a souvent des conversations avec les personnes dans justement qu'est-ce qui est l'art, qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'art, est-ce que tu es vraiment un artiste si tu t'es fait connaître de cette façon-là. Puis il y a des conversations comme ça, genre entre les personnages, puis aussi des fois c'est parce que tu vois la réaction des gens en dehors de la funhouse, tu sais, des gens qui le regardent ou c'est la police qui essaie de trouver tout ça. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et premièrement, ce n'est pas un film qui a été connu, même s'il y a un des frères Skarsgård dedans. Puis, c'est vraiment bon, c'est excellent. Je sais que tu ne serais pas trop film d'horreur, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans où il y a cette espèce de... Le méchant a une espèce d'ego trip, justement, sur de... Qu'est-ce qui est légitime au niveau de la reconnaissance puis au niveau de l'art, tout ça. Puis, c'est pas quelque chose de bien. Puis, t'as comme d'autres personnes qui, eux, pensent le contraire puis tentent de réfuter ça aussi. Il y a quelque chose d'intéressant vraiment là-dedans. Excellent. Puis, en plus, le gore dedans, excellent. Écoute, super. Si vous avez une chance d'écouter ça, Funhouse. Puis comme je dis, là, il y a un des 5 frères Skarsgård qui sont des acteurs qui est dedans. Donc, c'était mon conseil, ma recommandation de la journée. Restez vraiment trop longtemps dessus, mais je trouvais que ça fitait un petit peu quand même avec le sujet. Donc, je vais te dire bye à notre ami Ézéchiel et aussi bye à tous et à toutes et à ceux entre les deux, évidemment. Et on se revoit la semaine prochaine où une invitée qu'on a déjà eue nous revient pour nous parler de sa collection de rognures d'ongles.